Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est éditorialiste chez nos confrères du Point.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour François-Olivier Gisbert.
Bonjour.
Et avant de parler de la belle époque en France, on va aller prendre la direction des États-Unis. Donald Trump dénonce des incidents techniques dans certains bureaux de vote et se félicite des premiers résultats en faveur des Républicains. Ce serait une courte victoire, on va attendre les résultats définitifs. Est-ce que Trump fait du Trump tout simplement ?
Oui, et je suis pas sûr que les résultats soient très bons pour lui. C'est-à-dire, je crois que c'est un bon résultat pour le Parti républicain. Je pense qu'il y a quand même des bonnes chances que le Parti républicain reprenne le pouvoir à la prochaine présidentielle. Et ça prépare bien le terrain, parce qu'en fait, ce n'est pas une victoire de Trump. Parce que vous regardez bien, de près. Alors, on a encore beaucoup de résultats partiels, mais si, comme on peut le penser, les candidats trumpistes, bon, apparemment, la Pennsylvanie s'est perdue, Mehmet Oz, le candidat de Trump, est battu, et assez largement. Et puis, vous regardez les autres, par exemple, candidats trumpistes notoires, que je pense par exemple dans l'Arizona, apparemment ça ne va pas se faire non plus. Alors c'est vrai qu'il y a un candidat trumpiste qui est élu dans l'Ohio, mais en fait c'est quand même une victoire républicaine, mais ce n'est pas une victoire de Trump. Faut vraiment donner aux mots leur vrai sens, et à partir de là, bon, bah, ça ouvre un peu le champ, ça donne des perspectives à Ron DeSantis, qui est le gouverneur de Floride et qui lui va être élu, enfin qui est réélu déjà, parce que je crois que les chiffres sont, il y a tellement d'avance qu'il est largement réélu, et je pense que c'est l'homme plutôt qu'on va regarder. Bon, il aura des problèmes, parce qu'il aura évidemment, comme aurait dit Chirac, un bourdon dans la culotte qui sera Trump, qui va vraiment l'embêter au maximum.
Oui, et qui va certainement annoncer quand même, probablement, sa candidature. Vous entendez, François-Olivier Gisbert, l'argument qui est mis en avant par Biden et Obama, il dénonce un danger pour la démocratie si l'ex-président Trump se représentait de nouveau. Est-ce que selon vous, cet argument, il est, comment dire, entendable par une partie des Américains ?
Non, je pense pas. Et je pense aussi qu'il y a une part de délire dans une partie de l'électorat américain chez les Républicains, qui pense que voilà, les élections sont truquées, sont faussées. Mais je pense aussi qu'aux États-Unis, il devrait y avoir une réflexion sur la façon comment on fait les élections. C'est-à-dire le fait qu'on puisse se présenter pour voter sans carte d'identité, il y a quand même un léger problème là. Je pense qu'il faudrait. Il y a beaucoup de choses à revoir. Mais ça, c'est le problème de l'Amérique. Vous savez, les Français, on ne comprend jamais rien à l'Amérique, parce qu'on croit que c'est un État jacobin comme nous. Non, c'est chaque État a ses particularités. Il y a quand même des systèmes de vote très particuliers. Par exemple, en Géorgie, où on vote. Il y a deux tours, quoi, pour ce seul coin où il y a deux tours, et puis chacun a ses petites particularités, mais je pense qu'il y a une réflexion de fond à avoir sur, bah oui, quand on vote, il faut quand même montrer ses papiers.
Et est-ce que pour comprendre cette Amérique-là, il faut lire dans le journal du dimanche, c'était le cas, l'écrivain Douglas Kennedy, alors lui, il redoute que la présidence de Biden finisse comme l'Allemagne dans les années 30, il parle de la tragique destinée de l'Amérique moderne. Bon, il est lucide ou il est apocalyptique ?
Je pense qu'il est assez lucide, je vais vous dire, parce que l'Amérique a peur. C'est clair, je pense que, vous savez, l'Amérique, c'est, bon, parler de l'impérialisme américain, il y a encore des pauvres intellectuels qui nous parlent de l'impérialisme américain, on voit bien qu'il est aujourd'hui sur la défensive. Pourquoi ? Ben, la Chine qui est sur le point de doubler, mais c'est quelque chose dont on parle jamais, et c'est pas seulement sur le plan économique, elle est sur le point de doubler les États-Unis sur le plan économique, mais attention, c'est déjà... En 10 ans, elle est devenue la première puissance navale, la première marine dans le monde. Et j'ajoute que il y a un grand projet, c'est de devenir la première puissance militaire d'ici 2049. Mais évidemment, ça se fera avant. Ça se fera, à mon avis, les spécialistes vous disent, ça peut-être dans 10 ans. Et quand on fait un tel développement militaire, on a évidemment des intérêts. Ça, aux États-Unis, je crois que depuis Trump, parce que c'est Trump qui a mis le doigt là-dessus, et Biden continue sur cette ligne, parce qu'il y a une forme de continuité, je pense qu'il y a une inquiétude. Et inquiétude sur le déclin, voilà. Et donc, quand vous êtes dans une situation comme ça, et ben vous cherchez des sorties, et ben, ça peut être effectivement un coup à gauche, un coup à droite. Bon, ce qui est sûr, c'est que l'extrême droite, je pense qu'elle a pas trop sa place aux États-Unis, l'extrême gauche non plus. Et donc, si les partis aujourd'hui, par exemple, c'est clair, je pense que je suis pas sûr que Trump serait élu. en fait. S'il était candidat, je suis pas sûr qu'il serait élu. Vous voyez, parce que surtout s'il y a un bon candidat démocrate en face, comme Gavin Newsom, par exemple, le gouverneur de Californie, qui est un jeune homme comme ça, belle gueule, très compétent, qui a vraiment bien réussi partout, je pense qu'il serait battu.
En tout cas, ce n'est plus la belle époque non plus aux États-Unis à vous entendre, François-Olivier Gisbert. Et là, on revient en France. Avant d'évoquer justement votre livre, La belle époque, on en est loin si l'on en croit l'état d'esprit des Français dans les sondages. Perte de confiance dans les services publics, hôpital, logement, école, mais à quoi peut-on encore se raccrocher ?
Pas grand-chose. Et je pense que, hélas, on ne peut pas se raccrocher au président. Parce que c'est un danseur de claquettes. Je crois qu'on a élu un danseur de claquettes. Il fait des claquettes, voilà. Il fait de la com. Bon, c'est un peu méchant ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui a un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Blanquer dans un premier mandat et qui a un autre ministre de l'Éducation nationale, Pam Ndiaye, dans le deuxième. Il y a quelque chose qui nous échappe. Tout ça n'a absolument aucune cohérence. Et c'est pas dû en même temps. C'est du n'importe quoi. Vous voyez,
et à je ce pense point, que... danseur de claquettes, c'est l'expression va vous être reprochée, François-Olivier.
Oui, mais j'ai le droit de le dire.
Ah, évidemment.
Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de dire en France. Vous voyez, il y a des espèces de censure comme ça. Vous n'avez pas le droit de dire, par exemple, qu'il est un peu en dépression. Mais oui, évidemment. Mais d'ailleurs, il y a d'autres présidents qui sont en dépression.
Pourquoi ? Parce qu'il sent que son quinquennat lui échappe ?
Oui, on voit bien. Attendez, Macron, il a beaucoup de qualités. Il est très
d'ailleurs,
intelligent.
D'ailleurs, vous le reconnaissez, hein, l'intelligence, les compétences.
Très intelligent, très compétent. Mais je pense qu'il y a quelque chose, on voit bien, il y a un problème de colonne vertébrale qu'il faudrait qu'il se fasse greffer. Et peut-être que ça irait mieux. Et
mais
peut-être que le rapport aux Français serait plus facile.
C'est ça qui est plus intéressant. Comment il voit la France, selon vous ?
Justement, je pense qu'il la sent pas. Je pense qu'il est très loin. On a l'impression qu'il vit dans un gratte-ciel, dans une espèce de truc hors sol. Enfin, il y a quelque chose de... Vous voyez, par exemple, l'histoire des villes moyennes, des petites villes de France où vivent quand même la moitié des Français, je crois que c'est quelque chose qui lui échappe totalement. Et vous savez, la désindustrialisation qui a frappé la France, on a perdu quand même en deux décennies, on a perdu 2,5 millions d'emplois. On est aujourd'hui le pays le plus désindustrialisé de l'Europe avec la Grèce. Vous jamais oublier ça, c'est horrible.
Il y a quelques jours à votre place, le géographe Christophe Guilluy, auteur du livre Les Dépossédés, alertait justement sur une dépossession culturelle, pas seulement économique et politique, ressentie par une grande partie des Français que vous décrivez. Une possession, selon lui, qui n'est pas appréhendée par Emmanuel Macron, une partie des élites. Ça leur échappe complètement. Vous partagez ce diagnostic ?
Moi, je trouve que c'est quelqu'un tout ce qu'il a écrit sur la France périphérique, de toute façon, c'était annonciateur de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont toujours là, ils ont toujours les mêmes problèmes, ils cavalent partout, ils font 120 km aller-retour, ou parfois encore davantage pour aller bosser et gagner pas grand-chose. Tout va dans le carburant. Enfin, oui, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Et à côté de ça, vous avez une autre France qui peut profiter de la Sistana, mais alors plutôt dans les grands centres urbains. Et ça, il y a deux France, c'est clair. Il y a une France avec des gens qui travaillent énormément et des gens, disons, qui se sentent plus soutenus. Et je crois que on va vers d'autres problèmes à terme, c'est clair.
Et s'ajoute à cela une radicalité au détriment de la nuance et de l'intelligence quand on voit les actions de l'écolo-gauchisme auquel d'ailleurs le Figaro consacre aujourd'hui une double page aussi passionnante et qu'inquiétante. Je voulais vous faire réagir, François-Olivier Gisbert, vous qui maniez si bien les mots, sur la rhétorique qui est utilisée par ces radicaux, par ces écolos, au nom du bien, disent-ils. C'est le camp du bien qui veut sauver la planète. La vraie violence, disent-ils, est celle qu'on inflige à la planète. Qu'est-ce que vous pensez de cette rhétorique ?
C'est-à-dire, je pense qu'on a tous un sentiment double. C'est-à-dire que je suis écologiste depuis très très longtemps. J'étais élevé à la campagne, j'ai vu... Et puis j'aime la nature, vous voyez, donc je vois ce qu'on fait à la nature, mais ce sont pas les paysans. C'est-à-dire que là on voit ce que je parlais tout à l'heure de l'urbanisation même des esprits, des cerveaux. Là vous avez très bien, vous voyez, c'est une guerre urbaine contre les paysans. Enfin, c'est atroce, des connards qui ne comprennent rien à rien, qui ont jamais vu, à mon avis, une vache de leur vie, qui doivent croire qu'elles pondent des œufs, mais qui n'ont aucune connaissance de rien et qui viennent avec une sauvagerie, parce qu'évidemment c'est peut-être plus plus facile d'aller taper sur les paysans et puis avec le taux de suicide des paysans, vous avez le malheur paysan aujourd'hui en France, voilà, des gens aussi qui ne sont pas soutenus, quoi. C'est clair, l'aide ça n'existe pas là,
hein. C'est la majorité méprisée qu'on n'entend pas, silencieuse,
et tout ça, et je trouve que, enfin, comment dire, je suis écologiste, mais surtout il ne faut pas confier l'écologie à ces gens-là, ça devient quelque chose d'abject.
Mais pourquoi dans notre pays, gauche et extrême gauche se mélangent alors que dans d'autres pays, je pense par exemple d'autres pays européens, à l'Allemagne, ça ne se passe pas comme ça? Pourquoi il y a cette jonction chez nous?
Ça, vous avez la réponse dans La Belle Époque, mon bouquin. Et oui, c'est ça.
J'essaie de faire une formidable transition.
Oui, très bonne transition, mais c'est vrai que c'est fondamental. C'est-à-dire que l'Allemagne, elle a eu la fraction armée rouge, l'Italie a eu les brigades rouges. Et la gauche classique, traditionnelle, parlementaire et socialiste, est entré en guerre contre cette extrême gauche. Dans les deux pays, en Allemagne comme en Italie. Et d'ailleurs, il fallait voir les gens de gauche sur tout ce cirque qu'on a fait autour de César Battisti, défendu par tous nos intellectuels français. Bon, ils disaient, c'est un assassin. Moi, mes copains italiens me disaient, mais comment, etc. Moi, je comprenais, grâce à eux, d'ailleurs, qui était Battisti. Qui, d'ailleurs, quand il a été rattrapé par la maréchaussée, a tout de suite dit, bah oui, effectivement, il a tué, je sais plus si c'était 4 ou 5 personnes. Mais enfin, il s'est pas gêné. Et il a tout de suite plaidé coupable. Et nous, on était en train de crier que c'est un histoire. Pourquoi ? Ben, je veux dire, chez nous, il y a eu la même extrême gauche, infâme, répugnante, avec des appels au meurtre. Jean-Paul Sartre, le grand héros, mais je raconte tout ça, le personnage enfin, encore considéré comme un grand intellectuel, parce qu'on appelle ça les grands intellectuels. On dit, d'ailleurs, on n'a plus d'intellectuels, c'est normal, parce que les intellectuels qu'on a aujourd'hui ne disent pas de conneries, ne font pas d'appel au meurtre. Hein. Vous lisez Jacques Julliard, il n'y a pas d'appel au meurtre, c'est quelqu'un qui, en général, ne s'est jamais trompé. Alors, évidemment, nous, les grands intellectuels, il faut qu'ils se trompent tout le temps. Elisabeth Banater, voilà, c'est aussi une grande intellectuelle française, elle ne se trompe pas, voilà, elle fait des analyses très sérieuses. Donc on dit qu'on n'en a plus. Non, moi je préfère franchement Julliard, Badinter et tous les autres, et Michel Onfray, etc. Et Michel Onfray aussi, bien sûr, Finkielkraut. Enfin bon, il y a toute une série. On a des intellectuels en France. Et simplement, c'est vrai qu'ils n'appellent pas au meurtre, contrairement à tous nos grands intellectuels étaient maoïstes à l'époque. Et si vous voulez, eux, simplement, par rapport à la différence de l'Allemagne ou de l'Italie, on ne tuait pas. C'est ça la différence. Et donc, il y a une porosité très vite entre l'extrême gauche française et la gauche française. Et on l'a vu quand la gauche est arrivée au pouvoir, l'énorme connerie sur Action Directe. C'est-à-dire, il fallait les faire entrer dans le système. Vous avez
bien
vu,
sûr.
Ils sont ressortis, on les a relâchés. Et tout de suite, Georges Bess, enfin, et d'autres, il y a eu des morts.
Question,
là, pour le coup, il y a eu des morts.
Là, il y a eu des morts. Et quel cocktail ça va donner aujourd'hui, on va le voir. En tous les cas, dans votre livre La Belle Époque, c'est une fresque politico-intimiste. Alors, au moment où on criminalise la nostalgie, on peut dire qu'il y a un peu de nostalgie, mais de la belle nostalgie avec les chansons d'Assin, Sanson, Dalida, les livres, les beaux livres, les grands débats de l'époque, oserais-je dire les grands politiques, nous en recevons tous les matins ici, mais là vous parlez de grands fauves, bon, au moment où une France était gouvernée.
Et je pense aussi, oui. Vous avez vraiment la formule, c'est-à-dire que ces gens-là gouvernaient, c'est-à-dire il y avait l'idée d'une bonne gestion. Regardez par exemple tout simplement la décennie 70, il y a 2 chocs pétroliers, le Covid. Bon, effectivement, c'est embêtant, mais c'est de la roupie de Sansonnet à côté des 2 chocs pétroliers. C'est monstrueux, le baril multiplié par 4, enfin le prix du baril, tout ça.
Et pourtant, Giscard, il remet les clés à Mitterrand, dans quel état est la France ?
Quand il remet les clés à Mitterrand, vous savez, 20% d'endettement, et c'est complètement dingue, avec pas de déficit, enfin, la France, enfin, c'est-à-dire, ils ont géré. Et vous savez, gérer, c'est quoi ? Ça, il faudra expliquer à Emmanuel Macron, si vous avez l'occasion de le voir. Gouverner, De Gaulle l'a très bien défini, vous avez dans plusieurs bouquins de mémoire, de Focard ou d'autres, il dit tout le temps, et ça c'est d'ailleurs méchant pour Pompidou à l'époque, il dit gouverner, c'est dire non. C'est dire non. Vous savez, même si vous avez une petite PME, il faut savoir dire non. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait... voilà.
D'ailleurs, les journalistes doivent dire non. J'ai en mémoire que vous avez dit non à François Mitterrand qui voulait vous proposer un avenir de député.
Oui, mais Chirac aussi, souvent...
Tout le monde doit pouvoir dire non. C'est un exemple.
Non, mais ce métier est tellement beau, il faut continuer à le faire.
Mais alors comment continuer à le faire ? Parce que vous racontez quand même des belles histoires, des belles pages, où vous interrogez des politiques qui sont férus de grands livres, qui lisent, qui ont une...
Ah oui, c'est extraordinaire. C'est sûr que Mitterrand, c'était de la folie, d'ailleurs. Et Chirac aussi, vous savez, il était...
Bien sûr.
Chirac faisait tout pour avoir l'air un peu bêta. Mais vous savez, ça, c'est une tactique de certains grands politiques qui essayent de ne pas avoir l'air trop intelligents. Même Reagan se faisait plus bête que je vois Wauquiez aussi, dans un autre genre aussi. Bon, il veut pas, il est presque gêné, ou il va rougir si vous parlez de tous ses diplômes, où il était premier partout. Donc c'est vrai que c'est une forme. Enfin, quand vous faites de la politique, pour bien en faire, de toute façon, il faut être modeste. Hein, c'est clair. Et puis surtout, faut et ça, c'était le grand chic de ces gens, parce que Pompidou, c'était quelqu'un, comment dire, de rustique, parce qu'il gardait les racines. Hein, c'était, et bon, il travaillait chez Rothschild, mais j'ai jamais oublié, petit-fils de paysan, fils d'instituteur. Bon, c'était la promotion sociale à la française. Mais il y avait le vieux fond de modestie. Alors, il n'y avait pas cette modestie chez Giscard, bien entendu. D'ailleurs, il a payé ça, à mon avis, en grande partie, parce que le bilan, quand vous regardez le bilan, il est très bon. Hein, bon, mais c'est vrai que le personnage avait de tels défauts et ils sont apparus pendant son septennat, et il a payé pour ça, notamment le fait de ne pas répondre sur l'affaire des diamants.
Des c'était absolument grotesque. Des défauts, grotesque. Mais des grands fauves. Que vous rencontriez, vous, Catherine Ney, on peut les citer, Michel Cotta, Charles Villeneuve, évidemment, toutes nos grandes signatures ici sur Europe 1. Et vous l'aurez compris, cher Dimitri, on pourrait continuer l'interview comme ça, parce que le livre est vraiment passionnant. Bon, passionnant.
Évidemment, je vais me résumer comme ça, avec les, c'était le bon temps. Hein, c'était le bon temps. Mais la belle époque, c'était bien. Belle époque, et évidemment avec tous les problèmes d'aujourd'hui qui étaient en train d'apparaître, je crois que c'est ce qu'on voit dans le livre aussi.
Ouais, et qui a un succès extrêmement mérité, La Belle Époque, tome 2.
Ça intéresse les gens, cette époque. Je ne suis pas le seul à être nostalgique.
Non. Année insouciante, bourgeoise et révolutionnaire, dites-vous. Il y a de la nostalgie chez Fogg, mais c'est toujours joyeux, c'est toujours très agréable d'entendre parler. Merci beaucoup, François-Olivier, d'être venu nous voir sur Europe 1. Merci beaucoup, Sonia Mabrouk. Je vous dis à demain.